France Musique.
J'attendrai.
André Tuboeuf, Mémoire, une émission proposée par Lionel Esparza, réalisée par Antoine Courtin. Aujourd'hui, deuxième épisode d'Alep, au Mont des Oliviers. Adagio de la 8e sonate de Beethoven, la pathétique, jouée en 1950 par Wilhelm Kempff. Bonjour André Tuboeuf.
Bonjour Lionel.
On entre dans cette émission avec cette musique-là, comme dans un rêve, hein, ce qui a été le vôtre.
Rêve est bien dit. Cette pathétique est pour moi l'objet d'un fantasme extraordinaire. Je l'avais certainement entendu, peut-être pas en entier, mais ce mouvement, en tout cas, ce mouvement, ce cantabile, enfin, qui est tellement chantable, et qui semble qu'on chante à l'intérieur de soi-même, et d'une certaine manière qu'on a toujours connu. On ne sait pas si c'est un piano qui vous l'a joué, ou si c'est une voix qui vous l'a murmuré à l'oreille dans une espèce de rêve. Mais certainement, j'ai dû entendre ça dans une des premières émissions de radio que j'ai entendues de ma vie. C'est probablement pas à Alep, mais plus tard à Beyrouth. Parce que le dimanche matin, on y jouait de la musique pour les auditeurs, une balade de Chopin à l'intention de mademoiselle un tel, de la part de son admirateur éperdu, etc., etc. Et le fait est qu'une nuit, alors que j'avais tellement peu d'expérience de la musique, et même de la musique qu'on entend, de la musique en concert, de la musique en radio, il m'a semblé que je rêvais ce mouvement de la pathétique tout entier, autrement dit que par quelque espèce de prédestination ou de magie, je me l'étais approprié par le simple fait de l'avoir entendu une fois et qu'il était gravé en moi, pour ainsi dire, depuis l'origine, peut-être depuis avant le moment où je l'avais entendu à la radio, comme si de moi à la musique, où il y avait une espèce de lien nourricier qui fonctionnait d'une certaine manière héréditaire, mystérieuse, voilà. Donc, il y a, en ce début d'année 40, en 41 exactement, cette étrange entrée en musique, mais extrêmement timide, pas du tout professionnelle, et pas du tout conforme à ce qui se passe d'habitude, toujours un peu autodidacte à sa manière. Mais en même temps, ça a été le moment où le train franchit la frontière, et moi je vois de la vitre du wagon-lit, enfin, d'étranges enfants souriants, un peu lumineux et comme des espèces de petits anges, je dirais comme les petits génies de la flûte enchantée tels que je les verrai plus tard à l'opéra, et qui semblent me guider vers un pays nouveau, un pays où il y a des lettres qui sont écrites, des inscriptions qui sont dans un alphabet que je ne sais pas du tout déchiffrer, qui est l'alphabet arabe. Et de l'autre côté, des caractères français, en français, des caractères latins en français, et le drapeau français, voilà. Moi, né à l'étranger, et qui n'avais pas accès à mon pays, à ma patrie, et qui m'étais senti tellement indésirable et vu pousser dehors, d'une certaine manière, par la Turquie où j'avais passé mes 10 premières années, en un sens, à Alep, je me suis trouvé, je ne dirais pas rapatrié, mais patrié tout court, enfin, chez moi, dans une ville où il y avait un grand collège qui était tenu par les maristes, le collège Champagnat, où j'allais entrer, évidemment, en cours d'année, comme toujours, et tâcher de prendre le train en marche, comme toujours, et de rattraper les autres, comme toujours, mais enfin, j'étais pas clandestin. Et pendant les 3 ou 4 mois que nous allons passer à Alep, les 3 mois de ce dernier trimestre scolaire, de l'année scolaire en tout cas, je vais me sentir comme les autres. Plus petit, plus jeune, toujours un peu blond et un peu plus bouclé que les autres, parce que je veux dire, quand on arrive à Alep, on ne peut pas dire qu'on arrive vraiment au pays des hommes blonds. Et alors, il y a eu cette espèce d'incident de parcours extravagant dans l'histoire du monde. C'est que Alep, là, tout au nord de la Syrie, est déjà enfoncé dans le désert et loin de la Méditerranée, loin de cette espèce de golfe d'Alexandrette qui semble s'enfoncer dans la côte syrienne, Alep, la plus improbable ville du monde, était devenue tout d'un coup un point stratégique d'une importance insensée. Je veux dire par là que, pour que des avions allemands partant de la France occupée, car ça y est, on était sous le régime de Vichy en ce qui concerne la France, pour que des Allemands puissent accéder par avion au puits de pétrole et éventuellement les bombarder ou atterrir ou tenter une opération, quelle qu'elle soit, du côté de l'Irak ou du côté de l'Iran, eh bien, le gouvernement de Vichy pouvait en effet offrir un point d'atterrissage et un point de recharge, enfin de ravitaillement, et le seul possible était Alep. Et dans cette conjoncture de 41 où les forces allemandes, je veux dire, c'était déjà pour ainsi dire l'Allemagne d'un côté en Égypte, de l'autre côté ça allait être bientôt la guerre entre l'Allemagne et la Russie, et il était évidemment capitalissime pour les alliés, pour l'Angleterre et le peu de France combattante ou de France libre qui existait déjà, qui se proclamait libre et qui se voulait combattante. Il y avait évidemment un intérêt extraordinaire à essayer d'ôter la Syrie et le Liban à l'influence de Vichy, donc à une possible prise de possession de la part des Allemands, et de les faire passer du côté des alliés. Il y a eu donc cette guerre franco-française, qu'absolument tout le monde a oubliée, qui a été absolument locale par sa réalité et extrêmement importante du point de vue stratégique, et qui fait que les Anglais plus les Français remontant du sud, de l'Égypte, qui était en elle sous mandat anglais, enfin sous plus ou moins protectorat anglais, et de Palestine, sont avancés vers le nord. Il y a eu des combats qui ont été assez sanglants et assez rudes. Il y avait une présence de l'armée aux ordres de Vichy très importante, tant à Beyrouth qu'à Alep. Il y a eu des combats. J'ai même entendu, Dieu me pardonne, sur Alep, deux bombes qui sont tombées pendant une nuit. Donc je peux dire que pendant la guerre, j'ai entendu des bombes. Mais le résultat de la chose, c'est que Vichy, enfin les forces légitimistes, ont été battues. Le choix leur a été donné de rester là et de rejoindre la France libre ou de rentrer en France. Et le fait est que pratiquement, enfin les 4/5 de l'armée ont choisi de rentrer dans la légitimité, de ne pas se hasarder avec une bande d'aventuriers qui portait le nom de la France libre, si vous voulez. Mais de surcroît, enfin la mission laïque, le lycée français, tout cela est parti aussi, enfin tout ce qui était administration et légitimité. Alors bien entendu, les révérends pères et les frères des écoles chrétiennes sont restés, les maristes sont restés à Alep. Donc, ça s'est vidé d'un seul coup, et à peine nous étions installés à Alep, où nous avons passé un trimestre entier, que mon père a pu trouver quelque chose à Beyrouth, qui était beaucoup plus important pour lui, où il pouvait avoir des choses qui lui convenaient beaucoup mieux comme situation et comme compétence, et où surtout il pouvait se dire, mes garçons vont bénéficier quand même de l'université Saint-Joseph, qui est un phare de l'enseignement français en Orient, illustre depuis des siècles. Et donc, Alep n'aura été dans notre vie qu'un intermède, mais enfin un intermède fabuleux, enfin, dans la mesure où, d'une part, j'y ai découvert la France, d'une certaine manière, le fait d'être en France ou sous quelque chose qui battait pavillon français, et d'y avoir découvert l'enseignement français, l'insertion dans une façon de travailler qui était plus légitime et dont je pouvais me dire qu'elle était définitive, voilà, que la tribulation habituelle était enfin finie.
Qu'il moise d'offrir pour les doux yeux, même ses
La petite tonkinoise de Joséphine Baker, qu'on pouvait voir, ou qu'on a vu, ou que vous avez vu peut-être, André Tuboeuf, à Beyrouth, dans les années de guerre.
Écoutez, on peut se demander ce que Joséphine Baker vient faire dans cette histoire, enfin, qui est une histoire orientale. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes en guerre. On ne sait pas forcément que Joséphine Baker était une gaulliste absolument farouche et passionnée, et qu'elle a passé des années de guerre sur les théâtres d'opération représentant la France libre. Et il était assez extraordinaire qu'une femme, d'abord une femme, en face de ce qu'il faut bien appeler une armée française à 100% machiste, une femme, et une femme de couleur, de surcroît, et puis de cette façon, enfin passionnée, incarnée, une espèce d'idéal de résistance et de défi. Et le fait est que Joséphine Baker, pas tout de suite, mais un ou deux ans plus tard, est venue à Beyrouth. C'était pas un théâtre d'opération à proprement parler, mais enfin, on n'était pas loin de l'Égypte, qui était tout à fait un théâtre d'opération. Et de toute façon, Beyrouth était devenu quelque chose comme un lieu de repos pour des militaires de toutes sortes, principalement anglais et même australiens, enfin tous ceux qui étaient stationnés en Égypte, mais les militaires français de la France libre aussi. Tous, quand ils étaient en permission, enfin de repos, pour se reposer pendant 15 jours après les campagnes qu'ils avaient pu faire ailleurs en Afrique du Nord, eh bien, Joséphine Baker venait chanter pour les troupes. Et en été, elle était là, on l'a vu en été, elle venait aux bains militaires où nous allions nous-mêmes, où pratiquement tous les petits Français, les enfants de militaires, nous étions enfants de quelqu'un qui n'était plus militaire, mais enfin, qui avait vu Verdun dans la guerre précédente, donc qui était militaire honoraire de plein droit, si vous voulez. Et on se réunissait là, enfin, on était vraiment beaucoup d'enfants, beaucoup de garçons, et avec en face, Joséphine Baker, au bain militaire, sur une périssoire, maniant sa pagaille pour avancer. Et on se disait, est-ce qu'on va la couler? Non, on n'ose pas. On pouvait couler d'autres personnes sur la périssoire, mais elle, on n'osait pas. Pourtant, elle se baignait tout à fait. Elle avait une espèce d'extravagant boubou sur la tête, couleur turquoise et jaune, des pendeloques aux oreilles. Enfin, c'était Joséphine Baker, avec absolument souriante. Enfin, on serait allé l'aborder, on lui aurait parlé, mais on n'osait évidemment pas. Bon. Et voilà comment Joséphine Baker entre dans cette histoire, qui est tout de même une histoire de guerre. Mais nous, pendant ce temps-là, nous continuons. Je continuais, je peux pas dire à m'adapter. J'étais parfaitement adapté, j'étais comme un poisson dans l'eau. Je ne me rendais pas compte que mes études se faisaient mal et que je n'étais en vérité pas équipé du tout, parce que les bons professeurs étaient partis. J'ai appris le système dramatique de Corneille et le système dramatique de Racine avec un père maronite à Barberousse, dont le savoir en littérature française, il faut bien le dire, s'arrêtait à peu près là. J'ai fait, dans le meilleur endroit possible en Orient, les plus mauvaises études possibles. Et ensuite, enfin, lorsque je me trouvais dans ma dernière année en classe de philo, je me trouvais en face de quelqu'un d'absolument merveilleux, qui était tout simplement Salah Stétier, qui est devenu un grand poète, à la fois un grand poète français, un grand poète libanais, et lui qui avait fait d'admirables études chez les sœurs protestantes, qui était absolument dans son jus, c'est-à-dire à la fois sachant tout de ce qu'il faut savoir en arabe et sachant tout de ce qu'on peut apprendre dans une bonne école française qu'on suit régulièrement avec le collège protestant. Et tout d'un coup, je me disais, je ne vais peut-être pas, car je suis plus jeune que les autres, je suis peut-être plus brillant et flashant, mais ça ne va pas durer comme ça. Alors, qu'est-ce que j'avais pour m'alimenter? Il n'y avait pas de lecture. Qui pourrait donner des lectures? Je continuais à être avec personne de semblable à moi qui puisse me dire il faut faire ci, il faut faire ça. Il y avait remarquablement des disques. J'ai appris des choses avec des disques. Il y avait Non pas une bibliothèque, oui, une bibliothèque, à la bibliothèque de l'école, à la bibliothèque de l'Université Saint-Joseph, il y avait les albums de disques de la Comédie Française, qui avaient été faits en 78 tours, et comme déjà depuis Alep, je me régalais absolument de quelque chose que j'avais trouvé chez un vieux libraire scolaire, qui était voilà une collection de théâtre français, le principal de Corneille, de Racine et de Molière, réunis en un volume, avec des gravures, à chaque fois il y avait une gravure pour le frontispice de la pièce, et c'est... Je dois bien le dire tout seul que par la lecture et en me le récitant à moi-même, j'ai appris le théâtre français. Pas le théâtre français tel qu'on le joue au théâtre et tel qu'on ira le voir à la Comédie Française plus tard, si on peut, mais le théâtre tel qu'on peut se le mettre dans l'oreille, dans le souffle, dans l'intonation, dans une espèce de participation du langage vivant. Et je me suis... Bon, j'ai de la mémoire, j'apprenais par cœur. À force de lire et de lire et de me le redire et de me le répéter, je le savais par cœur. Et il y avait très peu de modèles, mais voilà. Il y avait des extraits de « Il ne faut jurer de rien » par Madeleine Renaud. Il y avait des extraits du « Médecin malgré lui », et il y avait des extraits du bourgeois gentilhomme, mais il y avait aussi merveille de la tragédie en alexandrin par les vieilles grandes sociétaires. Il y avait Madame Segond Weber dans Le Songe d'Athalie, il y avait Madame Julia Barthé à la fois dans Andromaque et dans Bérénice. Et alors, quand en vacances d'été, je pouvais aller dans le petit théâtre de Byblos, que l'archéologue Maurice Dunant avait restauré, je ne dirais pas maintenu en état de marche, mais remis dans son état de fraîcheur, là, avec ses colonnes anciennes, juste en face de la mer et de la baie de Byblos, je pouvais, pour ainsi dire, me draper moi-même dans une espèce de voile imaginaire et me réciter à moi-même, en face de la mer, la tirade d'Andromaque, comme je l'avais entendue par Julia Barthé. Et je dois dire... De la même manière, au cinéma, j'avais vu dans Adrienne le Couvreur, Yvonne Printemps, qu'on a déjà entendu dans l'émission précédente, et que je dois dire, j'avais dans l'oreille d'enfance, comme représentant l'esprit le plus sophistiqué peut-être, mais aussi le plus spirituel et le plus poétique de Paris. Et il y avait ce merveilleux film d'Adrienne le Couvreur de Marcel L'Herbier, que j'ai vu deux ou trois fois là, à ce moment-là, à Béhaute, et dans lequel Yvonne Printemps, faisant Adrienne le Couvreur, déclamait Psyché et la rencontre de Psyché avec l'amour. Et je dois dire, je cherche ça partout, je donnerais n'importe quoi pour qu'on me retrouve ce film que j'ai revu une fois par la Cinémathèque et qu'on a dû revoir une fois à la télévision au moment de la mort d'Yvonne Printemps et qui aujourd'hui est introuvable, 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 introuvable. Mais j'ai toujours dans l'oreille la musique de la voix d'Yvonne Printemps et sa façon de dire du Corneille et l'élégie française. Et de la même manière, j'avais de l'autre côté Julia Barthé qui était... celle dont on disait qu'elle était la reine des musiciennes, enfin parmi celles qui disaient la tragédie. Et dans ce temps de la guerre où il n'y avait pas encore de tournée française, comme il y en avait eu toujours, enfin de toute éternité en Orient, depuis que le théâtre, ça reprendrait après la guerre. Mais pour l'instant, il n'y en avait pas. Donc il y avait cet accès par le disque et par les voix, ce qui, dans mon cas, est tout à fait prémonitoire.
Hélas, de quel effet tes discours sont suivis? Il ne me restait plus qu'à condamner mon fils.
Madame, à votre époux, c'est être assez fidèle. Trop de vertu pourrait vous rendre criminel. Lui-même, il porterait votre âme à la douceur.
Ah, je lui donnerai Pyrrhus pour successeur. Dois-je oublier que t'en privé de funérailles et traîné sans honneur autour de nos murailles? Dois-je oublier son père à mes pierres renversées en sanglantant l'autel qu'il tenait embrassé? Songe, songe, ses fils, à cette nuit cruelle qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. Figure-toi, Pyrrhus, les yeux étincelants, entrant à la lueur de nos palais brûlants, sur tous mes frères morts se faisant un passage, et de sang tout couvert échauffant le carnage. Songe au cri des vainqueurs, songe au cri des mourants, dans la flamme étouffée, sous le fer expirant, pas toi dans ces horreurs, Andromaque est perdu.
perdue. Voilà comme Pyrrhus va s'offrir à ma vue. Voilà par quels exploits il sut se couronner. Enfin, voilà l'époux que tu me veux donner. Non, je ne serai point complice de ces crimes. Qu'il nous prenne s'il veut pour dernière victime. Tous mes ressentiments lui seraient asservis.
Eh bien, allons donc voir expirer votre fils. On n'attend plus que vous. Vous frémissez, madame.
Oh, de quel souvenir viens-tu frapper mon âme? Quoi, ces fils? J'irai voir expirer encore ce fils. Ma seule joie est l'image d'Hector. Ce fils, que de sa flamme il me laissa pour gage. Hélas, je m'en souviens, le jour que son courage lui fit chercher Achille, ou plutôt le trépas, il demanda son fils et le prit dans ses bras. « Chère épouse, dit-il en essuyant mes larmes, j'ignore quel succès le sort garde à mes armes. » Je te laisse mon fils pour gage de ma foi. S'il me paie, je prétends qu'il me retrouve en toi. Si d'un heureux hymen la mémoire t'échelle, montre au fils à quel point tu chérissais le père. Et je puis voir répondre un son si précieux, et je laisse avec lui périr tous ses aïeux. Roi barbare, faut-il que mon crime l'entraîne? Si je te hais, est-il coupable de ma haine? T'a-t-il de tout l'esquin reproché le trépas? S'est-il plaint à tes yeux des mots qu'il ne sent pas? Mais cependant, mon fils, tu meurs si je n'arrête le fer que le cruel tient levé sur ta tête. Je l'en puis détourner et je t'y vais offrir. Non, tu ne mourras point, je ne le puis souffrir. Allons trouver Pyrrhus. Mais non, cher Céphise, va le trouver pour moi.
Que faut-il que je dise?
Dis-lui que de mon fils l'amour est assez fort. Crois-tu que dans son cœur il ait juré sa mort? L'amour peut-il si loin pousser sa barbarie?
Madame, il va bientôt revenir en furie.
Eh bien, va l'assurer.
De quoi? De votre foi?
Hélas, pour la promettre est-elle encore à moi. Oh, cendre d'un époux, autre royal, oh mon père, oh mon fils, que tes jours coûtent cher à ta mère.
Allons, où donc, madame, et que résolvez-vous?
Allons, sur son tombeau, consulter mon époux.
Julia Bartet, qu'on entendait ici, à la fois un peu datée, mais bouleversante, en Andromaque, et ce côté déjà très lyrique, André Tuboeuf, c'est-à-dire il y a du chant dans cette voix.
Il y a du chant mal placé, certainement. Enfin, je veux dire, j'ai admiré ça extraordinairement. Le timbre, de toute façon, est merveilleux. Mais c'est dit d'une façon vériste, c'est bousculé. Parfois, les alexandrins ne sont pas des alexandrins. C'est le contraire de ce que la légende annonçait. Mais enfin, c'était le premier contact pour moi à quelque chose de vivant, enfin, qui est le dire français. Et je dois dire, enfin, pour ainsi dire, ce monologue intérieur d'Andromaque, et que je me trouvais connaître par cœur d'une autre manière, parce qu'il est repris mot pour mot dans l'Aiglon, dans la lecture au début de l'Aiglon, qui est fait à Marie-Louise, enfin précisément d'une situation un peu analogue, Napoléon qui en partant lui laissait l'Aiglon, et l'Aiglon auquel elle devrait penser davantage, et comme dit sa femme de compagnie, elle ne pense qu'à la perruche. Enfin, bon, et beaucoup de choses, enfin, de la culture française, de la mémoire française, Edmond Rostand, enfin, que je connaissais par Cyrano, par l'Aiglon, par ses lectures d'enfant. Je ne lisais pas Stendhal, je ne lisais pas Balzac, je lisais Jules Verne, je lisais Alexandre Dumas en version expurgée, tout ce que je pouvais avoir dans la bibliothèque de mon père, si je peux dire. J'étais coupé de pratiquement tout, y compris de maîtres qui puissent s'intéresser à mon cas particulier et me dire « voilà ce qu'il faut lire ». Par quel hasard extraordinaire je me suis trouvé en dernière année accéder aux souliers de satin, qui était vraiment normalement la dernière chose qui ait pu me tomber, qui me l'a passé, comment ça s'est trouvé, je ne sais plus. Je connaissais un peu de Peggy, je connaissais un peu de Claudel, mais je n'avais rien lu de ce que lisent les autres, de ce que lisaient mes futurs camarades, ceux qu'il faudrait bien que je rejoigne un jour en France. Donc, ça a été cette instruction mal faite dans laquelle il y avait beaucoup de cinéma, beaucoup de films, même toutes les Bettes Davis. Je veux dire, ces choses extraordinaires. Pendant la guerre, nous n'avions pas la production française de la guerre, qui bien entendu était interdite. En revanche, nous avions les films américains que la France n'avait pas vus. Eux, ils nous arrivaient, figurez-vous, via Mourmansk. Il venait d'Amérique via Mourmansk. Après cela, par convoi, il traversait toute la Russie et toute la Turquie et devait arriver jusque chez nous, en même temps que les cigarettes américaines, enfin tout ce qui était importé des USA à ce moment-là à Beyrouth. Mais j'ai vu tous les Bettes Davis, enfin j'ai rêvé là-dessus, j'ai rêvé sur le cinéma américain, sur Joan Fontaine, sur la nymphe au cœur fidèle, c'était ça mon imaginaire, et je me suis aperçu qu'un jour ça me servira beaucoup, parce que bon, si je n'avais pas fait les études correctes que les autres avaient faites, en revanche j'avais vu des pays, des paysages, des tribulations, et toute une espèce de folklore de la voix qui parle et qui déclame, et du film auquel les autres n'avaient pas accès.
Ihr hoch den Gott in allen Ländern, ja.
De larges extraits de la cantate 51 de Jean-Sébastien Bach, Your Zeit geht in allen Ländern, c'était Elisabeth Schwarzkopf qu'on entendait ici en 1950. On reviendra sur cette figure bien évidemment plus avant dans cette émission, dans cette série. Le Philharmonia Orchestra, quelques-uns de ses membres en tout cas, dirigé par Peter Gellhorn. André Tuboeuf, on arrive là à la fin de la guerre, la paix arrive, revient enfin au printemps. Vous avez tout cela, je suppose, et comme tout le monde, ainsi qu'une forme de soulagement ou de sérénité retrouvée.
Il y a eu tout de même quelque chose d'assez marquant et d'assez frappant pour moi. Je veux dire, j'étais un bon petit garçon, pieux, allant à la messe, éduqué dans une famille parfaitement chrétienne. Mais il m'est arrivé à ce moment-là quelque chose qui, évidemment, n'était arrivé à personne d'autre dans ma famille, parce que là, c'est les circonstances qui commandent. Il s'est trouvé, quand j'étais déjà en classe de philo, que pour Pâques, nous avons pu nous faire amener à Jérusalem, en Terre Sainte d'ailleurs, parce que c'était plus que Jérusalem, pour trois ou quatre jours, c'était pendant les vacances de Pâques. Les expéditions n'étaient tout de même pas faciles, parce qu'il y avait quelques kilomètres. Nous avons fait une première étape, en fait, dans une espèce d'orangerie au sud de Strasbourg, du côté de Saïda, c'est-à-dire Sidon, qui appartenait à la famille Audi, enfin, qui, moi j'avais des Audi dans ma classe, et il y a eu, je connaîtrai plus tard, Audi qui sera simplement directeur de théâtre et directeur d'opéra du côté d'Amsterdam et dont je verrai des mises en scène. Puis on a continué par le Mont Carmel et on a vu l'espèce d'éclat de mica absolument scintillant, cette espèce de lumière aveuglante sur de la caillasse et ce qui dans la Bible et dans l'histoire s'appelle Saint Jean d'Acre, voilà, que l'on regarde d'en haut. Enfin, je veux dire, on a l'impression comme cela, dans des temps qui étaient tout sauf touristiques, enfin, simplement il n'y avait pas de tourisme, de voir des pages de vieille histoire et des pages entières de Bible qui s'ouvrent sous nos yeux, et tout d'un coup, c'est comme si effectivement on entre dans sa propre mémoire, et comme je vous disais tout à l'heure à propos de Beethoven et de Kempf, c'est comme s'il y avait des choses qu'on savait depuis toujours et qu'à un moment fortuit, par une rencontre, une circonstance, on les actualise et on s'aperçoive qu'on y est prédestiné pour toujours. Puis on a été à Jérusalem. Et là, on était logé dans la cour de la mission, enfin dans le jardin de la mission biblique. On campait à la belle étoile. En fait, c'était parfait parce qu'il faisait beau. Mais là, j'ai passé la nuit, enfin une partie de la nuit, je veux dire peut-être une heure de la nuit. Je me suis dit, le jardin des oliviers est là. Ce n'est quand même pas mal que j'y aille avec ma musette, enfin, et que j'aille m'asseoir sous un olivier, voilà, et regarder. Bon, c'est un lieu de silence, c'était un lieu de nuit, il y avait les lumières que l'on voit de l'autre côté du ravin ou de l'autre côté de la colline. Une ville endormie comme elle l'était toute à l'époque, je veux dire, comme je le répète, il n'y avait pas de tourisme, il n'y avait rien, il y avait donc la ville silencieuse. Et j'ai été extraordinairement, je dois le dire, impressionné par cette nuit-là. Et ce n'est pas que quoi que ce soit m'ait appelé, mais indéniablement quelque chose m'a fait signe, au point que ultérieurement et par la suite, dans les deux ou trois mois qui ont suivi, mes parents aient pu tout à fait croire qu'à 15 ans, il m'était arrivé une espèce de virus sur la tête et que les révérends-pères étaient en train d'essayer de m'attirer dans leur giron. Ce qui n'était pas du tout vrai, parce que l'impressionnabilité, elle se suffit à elle-même et elle n'a pas besoin qu'on lui raconte et qu'on lui explique. La mémoire propre qu'on a, sa propre enfance, sa propre Bible, le rapport qu'on peut avoir soi-même à... très naïf encore, qu'on peut avoir à une religion ou à un évangile quelconque, tout cela suffisait. Et le génie des lieux et le génie de la solitude. Parce qu'il y a aussi un génie de la solitude. Quand la solitude est profonde, la solitude est sonore. Et il y a des choses que, pour ainsi dire, on entend à l'intérieur de soi-même. Un pressentiment d'un tas de choses. Mais d'une certaine manière, mon entrée en Bach s'est faite cette nuit-là. C'est comme si je m'étais imaginé une passion selon Saint Matthieu virtuelle un jour. c'est-à-dire quelque chose dont je n'avais pas la moindre idée, ni même la moindre idée que ça existe. Je pense que je n'avais pas entendu une note de Bach. Peut-être le choral du Veilleur joué à l'orgue, lors précisément d'une émission du dimanche matin, à côté d'une balade de Chopin et d'un bout de pathétique, peut-être, mais enfin... C'était pour moi des choses solennelles, lointaines, et je le répète, dont il faut avoir les clés. J'avais l'instinct, j'avais le pressentiment, j'avais probablement une espèce de mémoire. Mais il me semble que cette nuit-là, dans le Jardin des Oliviers, par pressentiment, c'est comme si j'avais été promis et prédestiné à une passion selon saint Matthieu qui un jour représenterait pour moi le vrai monde de la musique qui s'ouvre réellement.
Thank you.
Un extrait de la Passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, en soliste Petré Monteanu, Hermann Scherchen dirigeait l'orchestre de l'Opéra d'État de Vienne et le chœur de chambre de l'Académie de Vienne. Très bonne soirée à tous, à l'écoute de France Musique. Je vous retrouve la semaine prochaine pour ce qui sera le troisième épisode de notre parcours dans la vie d'André Tuboeuf. Ce sera à Paris.
Et pourtant, j'attendrai ton
à réécouter sur francemusique.fr.